Est-ce que les assurances, par exemple,
Alors, c'est très
sont au courant de
intéressant.
ça?
C'est très intéressant. Le risque, moi j'aime bien définir le risque qui est assurable par rapport à celui qui ne l'est pas. Et on va voir qu'après, l'environnement, il y a énormément de risques qui ne sont pas assurables, mais qui procèdent quand même aussi de la démarche humaine. Ces risques-là sont assurables. C'est-à-dire les zones sismiques, par exemple, il y a des risques, il y a des compagnies d'assurance qui le font, mais au Japon, aux États-Unis, aux Antilles, non. Aux Antilles, personne ne peut payer à l'heure actuelle ce risque. Donc c'est l'État qui est le provider. C'est l'État qui est chargé d'assurer la responsabilité de ce risque-là. D'où d'ailleurs les débats dont notre ancien ministre de l'Éducation nationale a été l'un des partenaires au moment des fameuses affaires de la Soufrière. Fallait-il évacuer, fallait-il ne pas évacuer la Soufrière de Guadeloupe? Ça a été un énorme débat parce que vous vous rendez compte, quand il y a 75 000 personnes à évacuer en quelques jours, d'abord vous créez des victimes, forcément. Vous vulnérabilisez toute une population et les assureurs ne veulent pas se mettre ça sur le dos. Les assureurs le feraient peut-être comme pour la tempête, mais après en répercutant sur les cotisants, évidemment, les coûts qui sont gigantesques. Et la population, et là on va y revenir quand on parlera un peu de démographie tout à l'heure, la population va s'urbaniser. 65% de la population du globe sera urbaine dans quelques années. Et s'urbanise en plus sur les grandes métropoles qui sont près de la mer. Il y a une marche vers la mer et un développement de mégapoles gigantesques. Le Caire est un des premiers exemples, mais parce qu'il y a longtemps que le Caire a dépassé 6 millions d'habitants, mais il y en a d'autres qui vont se créer de ce genre-là. Et
La gauche, la
énormément. Et là, c'est vrai que ces concentrations-là, alors on ne peut pas empêcher. On ne peut pas dire, nous, scientifiques, non, 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 n'allez pas vivre là, allez vivre ailleurs. C'est impossible. Et en se fondant sur quoi? En se fondant sur ce qui s'est passé dans le passé, allez dire aux gens, n'allez surtout pas à San Francisco, allez dire à Bill Gates, n'allez pas dans la Silicon Valley, parce que vous allez perdre tout Microsoft. Il y a d'autres façons de le perdre, donc c'est pas ça qu'on peut mettre en avant. Et c'est impossible. Or, et c'est pour ça que le scientifique des sciences de la Terre est dans une situation extrêmement délicate, c'est que nous travaillons sur des échelles de temps qui sont très longues à l'échelle humaine, alors qu'à l'échelle géologique, tout ça se télescope, c'est des événements qui se suivent, c'est une vibration de la Terre qui est extrêmement rapide. Ça pose un gros problème.
Donc je suis dans la Silicon Valley et je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir comment les gens prennent la chose là-bas. Et je pense que l'être humain a une qualité extraordinaire, c'est qu'au bout d'un moment, il s'habitue à tout, donc même dans les endroits où il y a la guerre. Et je pense que si on devait, je dirais, essayer de résoudre et d'éliminer tous les risques, à la limite, on ne vivrait pas, parce que je pense que la vie est la maladie incurable qu'on n'arrivera jamais à guérir. Et quand on essaie de dire aux gens que fumer, c'est dangereux, ainsi de suite, tout le monde le sait également, mais je pense que l'être humain a tendance à voir est-ce que le day-to-day, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux vivre plus intensément ou pas. Et donc,
C'est vrai.
y a un décalage
Tu as tout à
entre
fait raison. C'est vrai. Mais, tu as cité par exemple fumer. Ben oui, mais qui paye quand même la sécurité sociale? Dans ce cas-là, sur l'économie, l'impact sur l'économie, c'est un peu cela qui nous préoccupe aujourd'hui ici, cet impact sur l'économie, il est énorme. Et les compagnies d'assurance ne veulent pas se lancer là-dedans. Encore une fois, c'est les gouvernements qui vont s'en charger parce que c'est des sommes absolument gigantesques. Et là, c'est vrai que l'humain s'adapte à tout, et même en catastrophe, bien sûr. Et même souvent, les voix sont heureux, les gens, même aux Philippines, dans des zones qui ont été extrêmement touchées, quelques mois après, les gens reprennent leur vie, reconstruisent, ils le font dans les zones à tremblement de terre. Les Chinois sont remarquables pour ça, en Turquie, même maintenant aussi. Malheureusement, on reconstruit de la même façon. On recommence à faire des.
Je voudrais juste ajouter une chose par rapport à. Bon, la comparaison avec le tabac est peut-être un peu différente, mais ce qui est intéressant parfois, c'est quand il y a un désastre et qu'il faut reconstruire, eh bien ça permet aux gens d'aller plus loin et plus vite. Et
C'est vrai, puis ça
ça, on
limite le
a.
chômage. Non, c'est vrai, mais c'est vrai, cette adaptation, c'est vrai. Mais on n'est pas à l'abri de catastrophes beaucoup plus fortes que celles qu'on vient de voir. Et c'est ça toujours qui nous gêne, nous, quand on a parlé à des décideurs, il y a des gens qui font des choix. Moi, je vous dis, on va parler du niveau de la mer tout à l'heure. Moi, je reçois très souvent, comme je travaille beaucoup sur ce problème, je reçois des coups de téléphone angoissés, des gens qui refont le port de Fos-sur-Mer. À côté de chez moi, ils me téléphonent, ils me disent, mais dites donc, on est en train de remonter des digues là, et en Camargue aussi, et Dieu sait si on a des plans sur la Camargue, on les remonte de combien? On les remonte de 70 cm ou d'un mètre 10? Alors je redis, moi, écoutez, alors, en tant que scientifique éclairé, je dirais plutôt un mètre 10. Et pourquoi? Je dis, tout dépend de combien ça coûte en plus. Alors, si c'est 20% de plus, mettez donc un mètre 10. Et je dis, je ne peux rien vous dire d'autre. Vous comprenez, on ne peut pas modéliser la chose au centimètre près, leur dire, bah, écoutez, parce que alors ils me disent, mais le niveau de la mer, il va augmenter de 35 ou 40 cm. Alors, avec 70 cm, on est tranquille, mais non. Ils ne pensent pas à l'équilibre que ça représente et au déséquilibre qui fait que la Camargue disparaît, etc. Et ce qui est très difficile, c'est donc de traduire dans les faits et dans la construction et dans la reconstruction, de traduire des normes. Et les scientifiques ne peuvent pas être pris au sérieux tant qu'ils n'ont pas justement des certitudes. Et il va falloir qu'on apprenne à faire passer quand même, sans avoir de certitude, à faire passer des messages. C'est ce qu'on appelle le principe de précaution. Et le principe de précaution, c'est horrible pour un scientifique. C'est-à-dire, si quelque chose peut arriver, il vaut mieux qu'on fasse comme ci ou comme ça. Alors que nous, on aime bien dire, ça s'accumule, ça fait ça, on a une équation qui fait que...
Le principe de précaution appliqué au tabac, il est individuel. C'est-à-dire, il ne touche que toi, que moi, que tel ami, dans son acte personnel. Deuxièmement, la question des volcans et des tremblements de terre est collective. C'est-à-dire que ça touche une population qui se trouve agrégée à un point déterminé, exposée au séisme ou au volcanisme. Mais dans ce risque collectif, qui n'est plus du tout le risque individuel, il y a de nouveau une bifurcation entre deux cas. Je suis comme toi, je vis aussi en partie à la Silicon Valley, j'ai été là au tremblement de terre de 89, qui était si important, et je me suis aperçu très vite que si on compare le tremblement de terre de 89 de San Francisco et les deux ou trois que nous connaissons à Mexico ou en Turquie, il y a une différence considérable entre ces deux collectivités. Il y a la collectivité des pays, disons, riches, où les constructions sont bien faites, généralement basses, et si elles sont hautes, elles sont antisismiques, auquel cas il y a très très peu de morts. Donc l'assurance peut marcher parce que le risque est bas. Au contraire, dans les pays dits en voie de développement, tu as des grosses concentrations de personnes dans des constructions qui ne sont pas antisismiques, où il y a à ce moment-là des milliers de morts. Et curieusement, au moment même où il y a le plus de risques, les assurances marchent.
Oui, exactement.
Par conséquent, le problème n'est pas, si on analyse le problème, il n'est pas physique, puisqu'il dépend de l'économie. Il est donc de type collectif, mais étant de type collectif, quoi au sujet de la différence des risques entre les pays type San Francisco et les pays type Turquie ou Mexique? Est-ce que là, il n'y a pas une question d'ordre politique?
Totalement. Elle est totalement.
Est-ce que je veux
les
dire,
scientifiques
est-ce qu'il faut pas partager, est-ce qu'on partage
pas... Il n'y a plus
pas
de victimes. On pourrait dire qu'il n'y a plus de victimes, il suffit d'éviter toutes ces zones que je vous ai montrées, qui sont les zones actives et qui
non, 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 je ne pose pas la question globalement. Si, non, non, je pose la question globalement. C'est-à-dire, quel est le rapport qui existe entre un pays où il y a très peu de victimes et où ils ont le risque est assuré, et un pays où il y a beaucoup de victimes et où il n'est pas assuré? Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à penser du point de vue global, du point de vue du partage? Où il y a quand même une grande inégalité des risques. C'est-à-dire la cause physique ne touche pas les hommes de la même manière, que ce soit individuel ou collectif riche et collectif pauvre. Et à ce moment-là, ce n'est plus un problème de géophysique, c'est un problème de politique.
Totalement.
Il est un final humain.
Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se garde notre dimension scientifique que l'on construit avec aucune limite dans la connaissance, etc., mais qu'il faut sans arrêt qu'on ait le contact avec le reste, qui nous disent, mais attention, tu as parlé du bien et du mal tout à l'heure, ce qui est vrai, les bombes atomiques, mais ça a fait faire un bond en avant fantastique à la physique nucléaire aussi. Mais il faut savoir où le clonage, le génome humain, etc. Mais il faut savoir qu'on a le droit d'avoir cette connaissance très pure, très belle, et qui nous paraît toujours nimbée de bleu et d'or, et puis qui a en même temps son côté diabolique, rouge, etc. Il n'y a pas que l'industrie qui est polluante, qui est mauvaise pour l'environnement, etc. Il y a un chemin à faire les uns vers les autres, comme on le fait là, et des passerelles à établir en permanence et il faut que le domaine politique, que les décideurs, soient directement à l'écoute de cela. Et quand on en parle, la politique, la décision est extrêmement difficile. Je me souviens, moi j'ai beaucoup travaillé sur les problèmes de pollution en Méditerranée il y a quelques années. J'avais vu Madame la ministre, à l'époque on disait le, Corinne Lepage, qui est quelqu'un qui connaît bien les problèmes de pollution, puisque c'est elle qui s'occupait dans son cabinet d'avocat de la Moco Cadiz. Elle disait exactement la même chose. Elle disait, un risque qui est non assurable, on doit lui appliquer le principe de précaution. Un risque qui est assurable, et c'est variable d'un point à l'autre du globe en fonction de l'économie, alors à ce moment-là, on peut agir directement. Mais beaucoup des risques dont on va parler après, ils ne sont pas assurables. Ils ne sont pas assurables. Comment on va assurer éventuellement une montée du niveau de la mer? On dira aux gens, mais écoutez, montez votre maison ou fosse sur mer, ils ne vont pas assurer leur port en fonction de la hauteur des digues. Et si c'est moi, en plus, qui leur ai dit de mettre 70 cm au lieu d'un mètre 10, je ne serais pas à l'aise, alors je leur dirais un mètre 10.
Oui, je voudrais faire un commentaire général, parce que je crois que c'est un thème qu'on va revoir au fur et à mesure de la discussion. Je suis frappé par quand même la permanence dans le discours de ce débat sur la certitude. Et probablement que dans le début du siècle, on avait la vision que la science, c'était le domaine de la certitude. Et justement, je crois qu'aujourd'hui, au contraire, là, on le voit bien dans ce domaine-là, c'est l'imprévisibilité, l'incertitude. Et je pense que dans le discours du scientifique vers le politique, c'est plutôt de définir le degré d'incertitude plutôt que de l'assurer d'un certain degré de certitude.
Ce que tu dis est important parce qu'en fait, les décideurs écoutent ça très mal et les scientifiques eux-mêmes ont horreur de ça parce qu'à ce moment-là, on les prend pour quelqu'un qui n'est pas capable de résoudre le problème de la société. Or, on nous demande très souvent ça. On dit, les scientifiques... Alors, quand on dit on ne sait pas, c'est dramatique. Et on a nous-mêmes une certaine pudeur à nous donner même nos limites, parce que souvent les limites, on ne les connaît pas. Et les décideurs eux-mêmes, à ce moment-là, n'ont plus confiance dans la science. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la technologie, très souvent, prend le pas sur la recherche, parce que la technologie, elle crée. Et elle crée des certitudes, en un sens, parce qu'ils ont les machines qui marchent. Puis après, on regarde un peu, éventuellement, les conséquences, si elles peuvent être néfastes. Et le scientifique est toujours en retrait, dans ce domaine-là. Toujours en retrait, même vis-à-vis du décideur. Et c'est pour ça qu'il n'est pas souvent, pas assez écouté. Alors si, au sein de comités d'éthique, quand on parle du génome, quand on parle de choses de ce genre-là, là, on commence à l'écouter parce que, d'un seul coup, on est mis devant le clonage, on est mis devant les OGM, etc. Alors on dit, mais alors la science, oui, on peut vous dire exactement comment c'est fait, on connaît l'ADN, etc. Mais quand on a des choses qui sont comme celle-là, où on sait qu'il va y avoir un tremblement de terre, mais qu'on ne peut pas vous dire quand, ben, qu'est-ce que vous voulez, les gens vous disent, vous êtes bien gentil, mais enfin, vous avez payé depuis combien d'années là, pour faire vos mesures, on surveille toutes ces structures.
Je répondrai volontiers à Yves et à Charles. La chose suivante, c'est que oui, il y a incertitude, Charles, lorsque on veut chiffrer la probabilité ou la date du tremblement de terre ou de l'éruption volcanique. Mais il y a un point sur lequel nous sommes certains, et non pas incertains, c'est que si l'éruption volcanique touche Naples, ou si le tremblement de terre touche Mexico, nous sommes certains qu'il y aura 10 000 morts. La différence là, la certitude, paradoxalement, est du côté humain et l'incertitude du côté scientifique. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, d'un côté, nous ne savons pas quand ça arrivera, mais nous savons que si ça arrive, alors à San Francisco, je peux y aller avec Aymin, la main dans la main, et nous ne risquons pas beaucoup. Mais si nous allons nous établir à Naples, nous risquons beaucoup. Et là, il y a une certitude beaucoup plus forte, et paradoxalement, elle n'est pas du côté de la science. Elle est du côté des concentrations humaines et de la démographie. Et par conséquent, le problème politique, là, c'est inversé, c'est paradoxal. Kevin.
Il y a la certitude de l'événement. L'incertitude se situe au niveau du timing. Et le seul problème, c'est que quand on est décideur, le timing, c'est complètement clé. Et on ne peut pas prendre de décision en dehors du timing, en dehors du temps. Et sans arrêt aujourd'hui, quand je viens en France, par exemple, on n'arrête pas de me dire la bourse, Internet, de toute façon, un jour, ça va descendre. je leur dis, bah oui, un jour la planète aussi va disparaître. Donc c'est vraiment idiot de dire ces choses-là, parce que soit vous attendez la fin de quelque chose et au bout d'un moment toute chose a une fin, ou alors vous essayez de jouer avec pendant que la chose se passe.
Oui, ça je le dis très souvent en matière de prévision ou de prospective, il est toujours très facile de dire ce qui va se passer. Il n'est jamais possible de dire quand ça va se passer. Ça, c'est le principe numéro un de toute prospective. Nous savons ce qui va se passer. Il n'y a pas de doute que nous le savons. Le plus souvent, nous le savons. Mais nous ne savons jamais la date à laquelle ça va se passer. C'est votre propre mort, ma propre mort. Elle est certaine, mais voilà. C'est la date. Yves.
La faire même aujourd'hui. Et on paraît absolument innocent, ignorant. C'est très désagréable. La science, pour beaucoup, heureusement pas pour vous, doit avoir des certitudes. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que tout le monde connaît Desproges, le fameux Desproges. Eh bien, Desproges m'a fait un jour le con de la semaine. Moi, le con de la semaine. Parce qu'il avait vu que j'étais né en août. C'était la semaine du 9 août, et j'étais le con de la semaine, et la définition, c'était copain, ce qui n'est même pas capable de nous dire quand est apparu l'homme. Voilà.
C'est à l'emporte-pièce, hein, ça. Grand philosophe.
Il y a d'autres questions à poser sur les risques, madame.
Une question de Candide. Vous avez évoqué à plusieurs reprises l'incertitude de la science. Moi, je me pose une question, l'incertitude des chercheurs. Le chercheur, c'est aussi un homme qui va bien, en tant que professionnel, bien définir un principe de précaution, mais il va aussi avoir sa culture personnelle, sa philosophie, etc., etc. Donc, ce petit paramètre, ce petit grain de sable, comment vous le voyez ?
Ce n'est pas un petit paramètre. Le scientifique est aussi un citoyen. Et c'est vrai. Et c'est pour ça que là-dedans, ben, il y a des scientifiques qui vivent sur des failles ou au pied des volcans. Et qui fument. Et qui fument. Et vrai. Et donc, c'est vrai. Et il y a cette dualité. Il y a, par contre, ce que l'on privilégie dans la démarche scientifique, c'est une démarche qui est pénible, qui est lente, qui doit être... prouver, c'est pour ça qu'on a des incertitudes, il y a une marge. Quand on veut faire une découverte, quand on veut faire avancer la connaissance, on est obligé de se projeter au-delà de ce qui est déjà prouvé. Et déjà, pour certaines personnes, c'est déjà presque triché. Sinon, la science ne bougerait plus. Donc on est obligé, et Dieu sait si on y injecte son caractère quand on fait ça. On sélectionne en fonction de ce que l'on est sur le plan humain. Donc on a une démarche créative, disons, ou de découverte. Hein, le débat
comment
est
énorme.
Sans tricher, voilà. Et bien, on ne triche pas. On fait ce qu'on appelle, ce qui est merveilleux, c'est un peu triché, des hypothèses. Alors ça, c'est merveilleux. On a plein d'hypothèses, et puis ensuite, on a des faisceaux convergents qui disent, ben, ça va être plutôt celle-là. Et si c'est démontrable physiquement ou chimiquement, on fait l'expérience et on vérifie l'hypothèse. Mais là, on ne fait pas l'expérience. Et la Terre l'a fait pour nous, l'expérience. Et quand on se trompe, ben, on est un peu penaud.
Je voudrais répondre à madame une chose qui me paraît très importante. La question portant sur le chercheur comme individu, avec son équation personnelle, culturelle, religieuse, passionnelle même, est une question ou un cas qu'on pouvait poser au siècle dernier. Désormais, le chercheur individuel n'existe plus. Au fond, la recherche scientifique est un phénomène collectif. C'est un collectif de laboratoires, un réseau de laboratoires, ou un réseau en discussion en temps réel, entre 10, 20, quelquefois 20 000 chercheurs. Et par conséquent, parmi cette collectivité, les équations personnelles se mélangent et finissent par se compenser. Vous avez dans un laboratoire, ou parmi un réseau de spécialistes, un religieux et un athée, un écolo et un anti-écolo, et ainsi de suite. Et d'une certaine manière, cette compensation assure une certaine objectivité. Voilà ce que je répondrais volontiers. C'est-à-dire l'équation personnelle est devenue aujourd'hui un peu moins importante qu'elle était au début du siècle. Parce que la recherche est collective.
Plus le fait qu'elle se dissocie. Nous avions un collègue avec Edith en Californie, un paléontologiste, qui était créationniste. Et c'était un paléontologiste qui travaillait avec nous sur les derniers 120 ou 130 millions d'années. Et il pensait, dans sa religion, que le monde avait été créé il y a 4004 ans. Comment est-ce qu'il arrivait à combiner ça ? Mystère, mais il était un très bon paléontologiste et un très bon chercheur, et il travaillait avec nous sur les mêmes programmes. Donc il y a une dissociation qui se fait, et comme le dit Michel, l'individu garde, parce qu'il n'y a pas plus d'individualiste qu'un scientifique, qu'un chercheur. C'est souvent d'ailleurs des querelles extraordinaires, mais comme tout ça doit se mettre en commun pour que l'ensemble soit un travail forcément d'équipe, ça finit effectivement par s'harmoniser, quelquefois pas sans dommage, hein, avec des querelles absolument épouvantables, mais bon, ça c'est côté artiste de la recherche. Charles, vous voulez parler?
Je crois que la différence, c'est que le processus que Michel Serre vient de décrire, aujourd'hui, il a lieu en temps réel.
Exact.
Dans la société. Avant, il avait lieu à travers les générations. C'est-à-dire que la validation des hypothèses ou la réfutation des théories se faisait au cours du temps. Donc, je crois que ce qui est fondamental, c'est, comme disait tout à l'heure Caïmine, c'est la dynamique, c'est la composante temporelle. En même temps, il est à la fois vrai qu'on découvre des invariants, donc on peut dire avec certitude que certaines choses ont lieu sans savoir très bien quand, et en même temps, il y a toujours un certain degré d'incertitude. Donc il n'y a pas le savant qui sait d'une manière absolue, éternel, intangible. Il y a simplement, à un moment donné, un ensemble d'observations qui nous permet de dire il y a des points de repère, mais il faut accepter qu'il y a un degré d'incertitude et qu'il faut à ce moment-là le gérer. C'est ça, c'est le rôle du citoyen et du politique, justement.
Je pense que la science s'arrêterait. Je pense qu'effectivement, l'incertitude fait partie de la démarche scientifique. Elle en fait partie intégrante. Si elle n'était pas là, il n'y aurait pas ce progrès en avant. Il faut avoir déjà un certain nombre d'incertitudes. Ben, sinon, on ne cherche pas quand même. Pierre, je vois que tu as mis la tête là. Non, tu n'es pas d'accord?
On parle d'un objet qui nous est donné par le monde, et avec lequel on compose, avec la Terre par nécessité, parce que nous sommes dessus, avec le Soleil presque aussi par nécessité, parce que c'est lui qui est responsable de notre survie finalement. Avec les astéroïdes, on pourrait aussi imaginer, sont des objets qui nous sont donnés. Et dans le temps, comme on l'a bien dit tout à l'heure, ces objets évoluent à leur rythme. Séculaires, millénaires, millions d'années pour la Terre, pour le Soleil, milliards d'années. Et nous composons à nouveau avec le temps de l'évolution de ces objets. Nous composons, comme Yves Coppens nous montrera sans doute, de manière parfois très subie, parfois très subtile. Et là, l'incertitude, elle tient dans la manière dont le temps déroule cette façon de composer. Parce que le tremblement arrivera dans un an, dans 10 ans, dans 100 ans. Là, l'incertitude est liée à ce déroulement du temps. En revanche, la science rencontre la certitude dans de tout autres circonstances, en physique par exemple, pour prévoir le comportement d'un système physique, que ce soit un atome ou une centrale nucléaire. Et l'incertitude, là, peut être encadrée de manière beaucoup plus forte, parce qu'on n'est plus dans un rapport entièrement subi au système, mais on est dans un rapport où le donné de la nature, les atomes ou les molécules, par exemple, est tellement riche que la construction du système, une centrale nucléaire ou un laser ou tous les objets de la technologie ou un téléphone portable, peut obéir à une prédiction qui encadre l'incertitude de manière infiniment plus fine et rigoureuse qu'on ne le fait avec la Terre ou le Soleil. Donc je crois qu'on ne peut pas parler de l'incertitude en science de manière absolument générale. Pour voir dans quel type de rapport avec l'objet naturel on se trouve. on n'est pas dans le même type de rapport avec un atome qu'avec le Soleil ou avec le volcan.
Mais malgré tout, nous avons, il ne faut pas croire que toute la démarche scientifique depuis l'origine, par exemple, des gens qui travaillent sur la Terre, soit un faisceau d'incertitudes. Nous avons acquis un matelas de connaissances prouvées, certaines, justement, mais le drame par rapport au débat qui nous occupe sur les décideurs, sur les assureurs, sur les politiques, c'est que nous avons toujours un léger retard en physique ou en chimie, parce qu'on a une méthode expérimentale qui permet très très vite d'avoir des preuves de quelque chose. Et quand il s'agit d'un objet spatial, comme le décrit Pierre, là, c'est évident que cet objet, par son échelle de temps, qui n'est pas l'échelle de temps humaine de toute façon, nous échappe en grande partie. On en fait partie. Nous sommes la nature. Alors,
puisque vous parlez de la nature, etc., je voudrais répondre. Sur le créationnisme. Le créationnisme a très mauvaise réputation, en particulier depuis Gould, qui oppose complètement l'évolutionnisme et le créationnisme. Or, Gould, là-dessus, est complètement inculte. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas l'histoire de la philosophie. Ce pourquoi la nature est contingente, c'est parce que nous avons vécu à un moment dans le dogme créationniste. C'est un peu difficile à comprendre, je vais essayer de m'expliquer. Avant qu'intervienne le dogme créationniste, disons judéo-chrétien, la science était grecque et elle était dominée par les mathématiques. Et il n'y avait pas de physique. Et il n'y avait pas de physique parce que les Grecs pensaient qu'il suffisait de déduire des mathématiques toutes choses et qu'on aurait une physique. Et donc ils ont échoué. Et il n'y a eu de physique que dès lors qu'on a eu l'obligation d'expérimenter. Mais personne ne se pose la question, mais pourquoi expérimente-t-on ? Mais on expérimente précisément parce que on ne sait pas quel type de mathématiques va s'appliquer au réel. Pourquoi ? Parce que le réel est inattendu par rapport à ce type d'éduction. Le réel est inattendu par rapport à l'éduction mathématique. Mais depuis quand le savons-nous que le réel est inattendu ? Depuis le dogme créationniste. Et c'est pourquoi ce n'est qu'en pays où le dogme créationniste a été cru, je ne dis pas que j'y crois ou que nous y croyons, je dis simplement que le dogme créationniste a imposé une histoire contingente à l'univers. Et c'est depuis que nous sommes dans l'incertitude et que seule l'expérience peut régler cette question d'incertitude et cette obligation d'expérience a eu lieu dans un monde où il y avait le créationnisme. Par conséquent, Gould, sur ce point, se trompe de tout au tout.
Je suis d'accord avec toi.
Je ne veux pas dire par là que je crois au créationnisme. Je dis que la science expérimentale n'a pu intervenir que dans une culture où il y avait le créationnisme. Par conséquent, le créationnisme n'est pas du tout cette hypothèse ridicule de l'archevêque de Birmingham ou de Canterbury qui a dit que 4004, tout ça, c'est l'état le plus ridicule.
C'est une déviation du créationnisme.
Et là-dessus, Gould est complètement à côté de l'histoire de la philosophie sur ce point. Il a popularisé une idée complètement fausse du créationnisme. Le créationnisme, c'est lui qui a imposé l'idée que le monde était contingent et non pas nécessaire. Eh oui, mais c'est, il faut le dire, c'est important.
Je crois que le créationnisme dont je parle, moi, c'est uniquement cette déviation par rapport au
créationnisme. Oui,
c'est une espèce d'intégrisme, de faux intégrisme,
oui.
Qui rejoint bien d'autres intégrismes.
Donc, moi, j'ai une question ici.
Ah oui.
En tant que non-scientifique, j'ai l'impression
que... Nous sommes tous non-scientifiques.
Oui, vraiment, complètement, le public... j'ai l'impression qu'il y a une distinction à faire entre un risque où il existe un choix et un où il n'y a pas de choix. Par exemple, dans les phénomènes naturels, on a un certain choix parce qu'on sait qu'il y a un risque à San Francisco, etc. On peut ou pas habiter là, si on veut. On peut ou pas fumer, sachant qu'il y a un risque. Par contre, par exemple, dans l'épisode du sang contaminé ou, mettons, de la vache folle, etc., le public n'a pas vraiment le choix. On fait confiance. On a le choix à partir du moment où on a découvert effectivement qu'il y a des risques. Qu'est-ce que vous pensez de... Est-ce qu'il y a vraiment une distinction à faire ou...
Je
pense qu'il y a le problème éthique qui survient à ce moment-là, au moment où le public, lui,
Moi, je crois que dans l'épisode de la vache folle, ou dans les épisodes que vous citez où il n'y a pas de choix, il y a une ignorance très profonde de l'état actuel des choses par rapport à un état relativement peu ancien. Par exemple, aujourd'hui, prenez le cas de la listériose, nous sommes complètement affolés et cela déclenche une sorte de mouvement d'opinion quasi mondial dès lors qu'il y a 2 ou 3 cas d'intoxication alimentaire par mois dans un pays développé donné. On oublie complètement qu'il y a à peine 20 ans, il y avait 10 000 cas d'intoxication alimentaire par semaine, mais que c'était absolument inconnu de l'opinion publique. L'intoxication alimentaire était chose ordinaire, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de surveillance réelle et de surveillance publique ou de santé publique concernant l'alimentation. Or, aujourd'hui, à mesure qu'il y a concentration de l'alimentation, la surveillance est de plus en plus forte. Or, le paradoxe est absolument infini. Là, on a d'autant plus peur qu'on n'a plus de raison d'avoir peur. Et, c'est-à-dire les intoxications alimentaires ne sont presque plus rien, et au moment où elles ne sont presque plus rien, elles déclenchent une réaction de panique. Vous voyez ? Alors ça, c'est une affaire qui n'est plus de la science, qui n'est plus de l'éthique, qui touche réellement les réseaux de communication et la formation de l'opinion.
Non, je suis d'accord avec ce que disait Pierre Léna sur les
médias.
Les variétés d'incertitudes, disons, des pratiques scientifiques, mais ce qu'on vient d'entendre là me redit qu'en fait, il y a une sorte de ressort fondamental de l'humanité qui est une sorte de quête d'absolu. Donc là, en l'occurrence, ce serait le zéro défaut de l'alimentation, on a parlé du zéro défaut de l'éducation, dans un contexte donné, devient intolérable dès qu'il y a la moindre...
Oui.
Et c'est quelque chose d'assez général, finalement. On n'arrive plus à tolérer le moindre degré d'incertitude dès qu'il est mis en lumière d'une manière complètement hors de son contexte.
Moi, je dirais volontiers que c'est plutôt pathologique. Et que Caïmine a dit tout à l'heure quelque chose de vraiment très intéressant. Au fond, aujourd'hui, nous voulons ce que tu appelles zéro défaut. Mais zéro défaut, c'est la mort. Ce n'est pas la vie. La vie, c'est le risque perpétuel. C'est cette espèce d'écart à l'équilibre que Yves a décrit lorsqu'il parle du progrès ou de la découverte. Mais au fond, la vie, c'est toujours un risque pris. Si vous ne prenez pas de risque, autant mourir tout de suite. Donc l'idée que nous avons collectivement aujourd'hui d'amener le risque à zéro et d'avoir toujours le choix sécuritaire est mortel pour une société, est mortel pour l'individu. Nous sommes dans une civilisation mortelle, mortifère. Le risque, c'est la vie. Au fond, dès que vous traversez la rue, dès que vous escaladez une paroi, dès que vous mangez quelque chose, vous risquez, eh bien, d'une certaine manière, tant mieux. Excusez-moi de le dire. Vous voyez, ce zéro défaut, pour moi, est le cadavre. Le cadavre est un zéro défaut, il n'y a pas de doute. Jean-Marc ?